Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Tamara Al-Saadi. Bonjour Tamara Al-Saadi.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Tamara Al-Saadi, vous êtes dramaturge, comédienne et metteuse en scène. Ça va ?
Oui, ça va.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter ?
Plein d'autres choses. Je suis une femme, je suis une fille, je suis une sœur, je suis une amie, ce que vous voulez.
Et on peut dire aussi que vous êtes née en Irak.
Absolument.
Et que vous avez grandi en France.
Oui.
Vous êtes née à Bagdad.
C'est ça.
Ça va être très important pour la suite
de
l'émission. Dire aussi que vous avez remporté le prix du jury et le prix des lycéens au Festival de théâtre Impatience. Dire aussi que votre dernière pièce, Place, a été une des révélations du dernier Festival d'Avignon. Faut le dire, ça aussi, non, Tamara?
Quand c'est vous qui le dites, ça sonne bien. Si ça venait de moi, ce serait beaucoup trop présomptueux, mais je vous remercie de le préciser.
Tamara Al-Saadi, vous avez choisi comme journée particulière le 13 décembre 2003. Ce jour-là, Saddam Hussein était capturé.
Il est 20h hier soir en Irak lorsque les caméras de CNN filment le début de l'opération Aube Rouge. 600 soldats des forces spéciales américaines, appuyés par des Peshmerga kurdes, encerclent une ferme isolée à Al-Daour, près de Tikrit, au nord de Bagdad. Selon des informateurs de l'armée américaine, la dernière cache de Saddam Hussein. Les GIs pénètrent dans le bâtiment et cueillent l'ex-Raïs sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré.
Il y avait une sorte de trou à rats dont l'entrée était cachée par des briques et des ordures. Après avoir ouvert l'entrée, nous avons poursuivi nos recherches et découvert Saddam Hussein qui se cachait au fond du trou.
Une cache de quelques mètres carrés où une seule personne pouvait rester couchée, aérée par un simple ventilateur. Pour tout arsenal, un pistolet et deux kalachnikovs. Mais un trésor de guerre, $750 000 cachés à l'étage supérieur.
Tamara Al-Saadi, vous vous rappelez de ces images ?
Oui, je me rappelle très bien. Je ne m'attendais pas à les voir. Enfin, j'étais petite quand je suis arrivée en France. J'ai appris à attendre le moment où cette dictature allait se terminer. Je l'ai un peu rêvé, mais je ne pensais pas que quand je verrais ces images, en fait, elles me choqueraient autant et elles n'étaient pas à la hauteur de mes espérances. En fait.
Alors expliquez-moi, elles vous ont choquée. Pourquoi ? Et pourquoi elles n'étaient pas à la hauteur de vos espérances, Tamara Al-Saadi ?
Bon, après, j'étais un enfant, puis une adolescente, et puis on rêve un peu d'espace révolutionnaire. On se dit qu'un pays va se soulever, faire tomber une dictature. Enfin, il s'avère que là, c'est l'intervention américaine qui a fait chuter le régime, un mouvement d'invasion qui a fait tomber... la dictature et non le peuple irakien qui s'est libéré lui-même. Donc ça, c'était assez navrant. Et puis, par ailleurs, en fait, comment Saddam Hussein, les images qui ont été faites, et puis après, comment lui, il a été traité médiatiquement, j'affectionne pas du tout cette personne, loin de là, mais en fait, la manière dégradante dont il a été présenté au monde, un peu comme un animal, en disait long sur la perception des envahisseurs sur le peuple irakien.
Alors, je vais vous faire écouter quelque chose qui va aller dans votre sens.
Ce n'est que 12 heures après son arrestation que, pour la plus grande joie de certains journalistes irakiens, l'armée américaine livrait ses premières images de Saddam Hussein. Celles d'un dictateur déchu, traité comme un prisonnier de droit commun. On y voit un médecin ausculter sa bouche, vraisemblablement, pour s'assurer qu'aucune capsule de cyanure n'y est dissimulée. Et ce matin, la presse américaine divulguait opportunément les premiers interrogatoires. Extrait choisi par le Pentagone. Comment allez-vous ? Je suis triste parce que mon peuple est enchaîné. Vous voulez un verre d'eau ? Si je bois de l'eau, je dois me rendre à la salle de bain. Comment puis-je utiliser une salle de bain alors que mon peuple est enchaîné ?
Tamara Al-Saadi, c'était 12 heures après que Saddam Hussein ait été capturé. Vous vous souvenez de ça ? C'est des images où on voit Saddam Hussein la bouche ouverte. On est en train d'ausculter sa bouche. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on voit un homme hagard, poussiéreux.
Oui, dégradé. Enfin,
dégradé.
Je veux dire, après, bon, c'est des questions de point de vue. C'est quelqu'un qui a commis des génocides, qui a lui-même assujetti sa population. Mais après, c'est des questions d'interface médiatique. Bah, là, on a décidé de briser sa dignité voilà, de façon assez grossière, quoi, assez ostentatoire. Et pour moi, c'est plus le symbole que... Enfin, bon, lui, au final, je m'en fiche un peu de ses vapeurs, mais c'est le symbole qu'il représente et ce que ça représente dans les représentations collectives que de faire ça à un chef d'État, oui.
Alors, ça veut dire que ce jour-là, quand vous avez appris... Vous étiez où quand vous avez appris que Saddam Hussein était capturé?
J'étais dans le métro et j'arrivais à la station Vaugirard.
Et comment vous l'avez appris, alors?
C'est ma mère qui m'a appelée. J'avais un petit portable à l'époque, le petit portable à clapet. Et mon téléphone sonne... Et j'avais mon Walkman dans les mains. Et je me rappelle de la chanson que j'écoutais. J'écoutais Les Ogres de Barbac à ce moment-là. Et j'enlève mon casque et je l'entends me dire « Ils l'ont trouvé ». Et puis ma main s'est mise à trembler et je me suis mise à pleurer. Et je voyais les stations passer. Puis j'allais chez une copine pour réviser mon bac de français. Puis je suis arrivée et je lui ai dit « Claudia, ils l'ont arrêté ». Et en fait, elle comprenait pas vraiment pourquoi ça me mettait dans cet état. Elle était un peu loin de tout ça. Elle me voyait que j'étais émue, puis elle m'a juste pris dans ses bras et je lui ai dit c'est fantastique et c'est une catastrophe. Et elle comprenait pas pourquoi j'étais si
partagée,
ouais.
Fantastique parce que c'était la fin d'une dictature, catastrophe pour ce que vous venez de dire.
Oui, parce qu'en fait j'avais 16 ans, donc je n'avais pas forcément beaucoup de notions en géopolitique, mais j'étais certaine que ça allait ouvrir un espace
chaotique
et de guerre civile. Un peuple qui se détermine pas par lui-même et qui est déterminé par des actions comme celle-là, forcément ça ouvre un espace de chaos, oui.
C'est à cause de Saddam Hussein si votre famille est restée bloquée en France au moment de l'invasion du Koweït. C'est Saddam Hussein qui est la cause de votre...
Non, pas que. En fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est une situation singulière. On est parti en vacances avec ma famille en Europe pour rendre visite à mon oncle et... Pendant qu'on était en vacances, effectivement, Saddam Hussein a décidé d'envahir le Koweït. Et il y a eu le déclenchement de la première guerre du Golfe, la fermeture des frontières. Et donc, on s'est retrouvés bloqués dehors par chance, en fait, parce que ma famille sur place nous disait qu'un mois de bombardement américain sur l'Irak, c'était pire que 8 ans de guerre avec l'Iran. Ils ont rasé Bagdad. Et puis, après, il y a eu très vite l'instauration de l'embargo. Les conditions de vie se sont dégradées extrêmement vite. Et donc, effectivement, c'était mieux pour nous de rester à l'extérieur. Ouais.
Et c'est comme ça que vous êtes restée en France. Vous aviez quel âge?
J'ai fêté mes 5 ans à Paris.
Donc Saddam Hussein, quand même, pour vous, dans votre famille, qu'est-ce que ça représentait? Ça représentait celui qui vous avait empêché de rentrer? Ou plus l'embargo, c'est quoi?
Saddam Hussein, il l'a représenté... Il a fait partie de toutes les vies des familles irakiennes. C'est-à-dire quand on vit sous une dictature, la dictature est présente à l'intérieur de la cellule familiale en permanence. Moi, on m'a appris, ma grand-mère, dont le frère a été assassiné par le régime basse, me disait « Tonton Saddam est gentil ». Elle me faisait répéter des choses pour que surtout je ne dise pas un mot plus haut que l'autre devant des étrangers. On passait devant le palais présidentiel en voiture, on cachait mes yeux parce qu'en fait, si un enfant regardait le palais, ça pouvait prêter à quelque chose de suspect. Je veux dire, les informations étaient avec nous tout le temps, la guerre était avec nous tout le temps, la méfiance était avec nous tout le temps. Puis mon père a été arrêté par 2 fois par le régime basse. Donc en fait, il a fait partie de ma construction, de mon enfance. Même, je pense, ça a tellement été inscrit en moi que petite, j'avais une affection particulière pour les hommes qui avaient des moustaches. J'associais ça à quelqu'un de gentil. Donc pour vous dire à quel point, oui, mais bien sûr, après c'est surtout l'histoire de l'Irak qui a déterminé ma construction personnelle plus que ce personnage en fait.
Mais vous avez cru le 13 décembre que vous pourriez rentrer en Irak ?
En fait, cette histoire de retour est devenue tellement un tabou dans ma famille. On attendait pour rentrer, puis finalement on n'en parlait plus, puis surtout mon père qui en parlait, puis finalement on n'en parlait plus. Moi je voulais rentrer, puis d'un coup je voulais plus rentrer parce que je ressentais que je devenais davantage française qu'irakienne. À un moment je me suis dit, ah oui, peut-être que je vais pouvoir y aller pour aller voir. Probablement ça a dû me traverser l'esprit, mais pas de façon très, très forte. Ouais.
Alors en 2003, on écoutait ça sur les ondes. « Tamara Al-Saadi, vous écoutiez cette musique en 2003.
Bien sûr, c'est la base, les White Stripes, ils étaient passés au Zénith, je me souviens être allée au concert.
En 2003?
Ouais.
Ah d'accord.
Ouais.
Donc ça fait partie de votre bande-son.
Ouais.
Quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre?
Ah, je sais pas, il y avait beaucoup de choses. Il y avait, je crois, je me souviens, j'écoutais pas mal WeFM. Il y avait Nada Surf aussi que j'écoutais pas mal, The Cake...
Ah, The Cake.
Je sais plus. J'écoutais Queen of the Stone Age. J'écoutais beaucoup de punk aussi. C'était après ma période rap, il y avait ma période rock. Bon, voilà. C'est très attendu, mais voilà.
France Inter. Zoé Varier. Une journée particulière.
13 décembre 2003, donc c'est votre journée particulière, Tamara Al-Saadi. Ce jour-là, Saddam Hussein est capturé 9 mois après le début de ce qu'on a appelé la seconde guerre du Golfe, déclenchée à partir de fausses preuves. Et j'imagine que vous vous souvenez aussi, Tamara Al-Saadi, de Colin Powell à la tribune des Nations Unies, tentant de convaincre le Conseil de sécurité qu'il y avait bien des armes, de la légitimité d'une intervention militaire en Irak et qu'il y avait bien des armes de destruction massive en Irak. Vous vous souvenez de ça,
oui,
toutes ces images?
Je me rappelle très bien... de cette mascarade de mensonges d'État et de mensonges internationaux pour justifier une coalition, une intervention en Irak, de liens entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, d'armes de destruction massive. Moi, ce qui me reste en fait beaucoup de ça, c'est que surtout, peu de temps avant, en 97, on avait le scandale Bill Clinton avec ses histoires d'adultère et comment en fait toute l'opinion publique américaine, enfin médiatiquement, l'interface médiatique criait au scandale au fait qu'on était face à un mensonge d'État, comment il a pu mentir sur ses relations sexuelles et tout ça. Et tout le monde était outré dans ce pays. Enfin, en tout cas, ce que nous en disaient les médias. Après, moi, les Américains, je sais pas. Et je me suis dit, c'est quand même dingue. Là, on est face à une intervention militaire qui a engagé des vies de soldats américains face à un vrai mensonge d'État qui, aujourd'hui, n'est plus approuvé. Et personne s'en scandalise. C'est quand même incroyable, cette différence de traitement. Ça m'échappera toujours.
L'usage de la force... ne se justifie pas aujourd'hui. il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs.
Archivina du 14 février 2003, Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères aux Nations Unies, qui s'oppose à cette guerre annoncée.
Vous imaginez pas ma délivrance quand j'ai entendu ça, donc que la France n'allait pas participer à l'intervention en Irak. C'était très soulageant pour moi de savoir que c'était cette position que l'État français avait décidé de choisir. Je me rappelle très bien aussi de cette déclaration. Je me disais, waouh, qu'est-ce qui parle bien, même si après j'étais très fâchée avec Dominique de Villepin par la suite. J'étais ravie d'entendre ce discours avec ces arguments-là, qui sont très sensés et très touchants, en fait, oui.
Alors, pendant la guerre, vous avez été interviewée par un journal, c'est l'Actu, ouais, sur la guerre en Irak. Et c'est étonnant, comme ce que vous dites, comme vous êtes mature pour votre âge à 16 ans. Vous y parlez d'embargo, vous y parlez du génocide du peuple irakien.
Oui, oui, je pense que, en fait, de par en fait, ma trajectoire et pourquoi je me suis retrouvée en France, j'ai été un peu politisée de fait, quoi.
Ouais, vous étiez une adolescente très politisée. Vous parlez de votre famille aussi, restée en Irak. Vous aviez des nouvelles de votre famille pendant, en 2003, pendant cette guerre ?
Oui, un peu. Alors, en fait, beaucoup étaient partis. Nous, on en avait surtout en 91, sur la première guerre du Golfe. Et puis après, de plus en plus, les gens se sont enfuis. Voilà, parce que la société s'effondrait. Et puis les matières premières disparaissaient, les médicaments, etc. Ouais. Donc j'avais moins de famille directe, mais quand même, oui, j'en avais sur place. Ouais.
Et vous receviez vous aviez des mails
Non, c'était par téléphone. Et souvent, c'était des coups de fil un peu improbables. À des moments, je me rappelle, en plein milieu de la nuit, le téléphone qui sonne et mon père qui parle très fort au téléphone parce que bon, ça captait pas très bien. Et je me rappelle toujours de sa voix qui disait « Allô ?» Oui, et en fait, on sursautait tous dans la maison en disant « Qu'est-ce qui se passe ?»
Vous disiez votre impuissance aussi dans cette interview.
Bah oui, de toute façon, notre impuissance, on grandit avec, non ? Je pense que quand on est touché par une injustice, on doit apprendre à coexister avec l'impuissance.
C'est ce que vous avez fait.
Ouais, c'est cette impuissance, elle vous abat et parfois elle vous donne des éclairs de génie, mais il faut apprendre à vivre avec. Et bien sûr, à 16 ans, ce qui est fou, c'est que j'ai relu cet article-là quand vous me l'avez demandé. Je me suis dit, mais c'est quand même, c'est vrai que j'avais 16 ans et que je disais, mais ça va devenir une guerre civile, cette affaire. Et je me disais qu'avoir cette clairvoyance à 16 ans, je me dis que d'autres l'avaient quand même à l'esprit et savaient très bien ce qu'ils faisaient quand ils ont entrepris cette intervention, ouais.
Et c'est pour ça que vous n'avez pas hésité, alors que vous étiez une excellente élève, Tamara Al-Saadi, vous n'avez pas hésité, vous, à aller manifester, à sécher les cours, ouais, pour aller manifester contre cette guerre.
Oui, alors ce qui était intéressant, c'est que quelques années avant, il y avait Le Pen au deuxième tour. Et donc moi, j'étais en seconde. Et le lycée avait banalisé l'après-midi pour que tout le monde puisse aller manifester. Bon, bah là, le lycée n'a pas banalisé l'après-midi. Mais j'avais un mot dans mon carnet de correspondance, dans mon cours d'histoire. Et j'avais des copines qui étaient venues avec moi et ma prof d'histoire, Madame Dumont, je la salue, elle nous écoute, m'a dit « C'est bon, vas-y, tu peux y aller. » Et j'y suis allée.
Pour la première fois dans l'histoire, près de 10 millions de personnes ont manifesté au même moment, pour le même motif, sur tous les continents, dans plus de 60 pays. En Europe, les plus forts rassemblements ont eu lieu en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne. Trois pays dont les gouvernements soutiennent la politique américaine. À Londres, c'est du jamais vu. Ils étaient près d'un million à désavouer la politique de Tony Blair. En Italie, à Rome, ils étaient près de 3 millions à manifester. Pour eux, la France a raison de tenir tête aux États-Unis. Du coup, Silvio Berlusconi hésite et laisse entendre que si les Américains devaient décider seuls de faire la guerre, l'Italie ne participera pas. En Espagne, à Madrid et Barcelone, là aussi c'est une mobilisation historique. Ils étaient entre 2 et 4 millions de personnes à défiler. Une mobilisation qui ne fait pas fléchir le Premier ministre, José María Aznar. En Allemagne, ils étaient 500 000 à conforter la position de Gerhard Schröder, hostile à la guerre. En France, à Paris, ils étaient entre 100 et 200 000 personnes. Mais là, le gouvernement français se défend d'être pacifiste ou anti-américain. Pour lui, la guerre ne doit être qu'un ultime recours.
Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces mobilisations mondiales contre cette guerre annoncée? C'était juste avant que la guerre ne commence.
De toute façon, les archives que vous passez depuis le début me touchent quand même beaucoup chez les mains moites depuis le début de l'émission. En fait, là où j'étais très contente, c'est que je me disais, ces manifestations étaient retransmises en Irak et les gens voyaient que le monde était avec eux. Et c'est souvent des populations qui sont souvent abandonnées à leur sort quand on a une puissance mondiale qui décide de s'attaquer à vous. Et voir qu'il y avait une telle solidarité internationale, je me disais, on les sauvera pas, mais il y a quelque chose qui passe, quoi. Il y a un geste qui est posé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de geste comme ça dans le monde. Je suis un peu triste de ça.
Oui, vous avez raison.
Et en fait, j'avais raison parce que récemment, là, j'avais vu un documentaire sur ce qui se passait en Irak pendant cette période-là, en 2003. Et on voit justement une famille qui regarde les infos et qui regarde les manifestations. Et je me suis dit, ah, ils ont vraiment reçu le message.
Mais quelle image, quelle représentation vous aviez de l'Irak, Tamara Al-Saadi? Parce que vous êtes arrivée en France à 5 ans, vous n'étiez plus jamais en 2003. Quelle représentation vous aviez, adolescente, de ce pays dans lequel vous étiez née?
En fait, ça se confondait beaucoup avec mon espace familial. J'étais petite, c'est la maison.
C'est la maison.
En fait, l'Irak, c'est la maison, c'est ma langue, c'est les odeurs, c'est les saveurs, la chaleur. Ouais. Après, j'ai entretenu mes souvenirs de l'Irak religieusement. Je les écrivais et je m'en rappelais pour être sûre de pas les oublier. Donc, j'ai vraiment fait vraiment un travail de mémoire sur moi pour pas lâcher les détails. Ma balançoire verte, le salon, mes habits, les odeurs, le portail de la maison, la rue, quel restaurant, quel goût, quelle chanson, tout ce que je pouvais garder en fait dans ma mallette, je le gardais. Ou même, je me rappelle du jour où on m'a percé les oreilles. Enfin, c'est des choses qui sont névralgiques à des petits détails. Puis après, je suis née pendant la guerre Iran-Irak. Bah, ça s'inscrit en vous aussi d'une certaine manière.
C'est bon. Je suis prête.
Sûre?
Certaine.
Une fois sans faute.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix, et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle le ressemble. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, désœuvrés, incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour.
Aragon, bouleversant, c'est un extrait de votre spectacle, Tamara Al-Saadi. Pourquoi Aragon? Vous l'avez étudié en français. Qu'est-ce que vient faire là Aragon?
C'est une très bonne question. Eh ben, écoutez, il vient faire là que, en fait, dans la trajectoire de la pièce, On suit donc l'évolution de Yasmine, de son enfance à l'âge adulte, et puis comment elle rencontre la culture française. Et moi, ma première rencontre avec la littérature, la poésie française, c'était par l'école et par la poésie. Je me rappelle du jour où j'ai appris par cœur Le Dormeur du Val.
Magnifique.
Enfin, j'avais 10 ans. Et en fait, c'était le seul espace qui pouvait me mettre en contact avec ce référentiel-là.
Alors, cette même année 2003, vous passez votre bac français, vous le dites.
Oui.
Donc, vous êtes plongée dans cette littérature et dans cette culture française. Donc, il y a Aragon qui a de la place, Le Dormeur du Val qui a de la place. Et puis, il y a votre prof de français qui fait un cours qui va résonner pour vous, parce que son cours porte sur la différence entre persuader et convaincre. En quelques mots, pourquoi ça a tant résonné pour vous, Tamara El-Saadi, ce cours de français?
Ça résonnait parce que tout d'un coup, on mettait des mots sur une réflexion qu'en fait je portais en moi mais que je n'avais pas encore identifiée. Convaincre, c'est-à-dire échanger par la raison, et persuader, échanger par le sensible, en gros, si je dois résumer. Et finalement, je savais que très jeune, j'avais très envie d'être en dialogue avec la société, mais je ne savais pas quels étaient les outils que je devais employer. Et tout d'un coup, le convaincre et le persuader, je me suis dit, ah, donc c'est ces deux catégories-là, c'est ces deux champs qui me sont présentés pour être en contact avec l'autre, pour échanger avec l'autre, passer par le convaincre ou par le persuader.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir désarmés, incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, lui cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Tamara El-Saadi, ça vous fait plaisir d'écouter Barbara?
Ah oui, ça me fait plaisir d'écouter Barbara, absolument.
Alors, jusqu'à 15h sur France Inter, pour ceux qui nous rejoignent, c'est la journée particulière de la dramaturge, metteuse en scène, comédienne Tamara El-Saadi. Le 13 décembre 2003, c'est votre journée particulière. Ce jour-là, Saddam Hussein est capturé. Vous avez 16 ans, vous êtes en première, vous préparez le bac français et vous vous sentez partagé. Persuader ou convaincre, se jeter dans les mots et le théâtre ou s'engager dans des combats politiques. C'est là où vous hésitez, hein, Tamara. Mmh. Et en fait, finalement, vous allez réussir votre pari de faire cohabiter ces deux parts-là de vous dans votre théâtre, qui est à la fois un théâtre de mots, un théâtre politique, où vous mêlez votre histoire et l'histoire de l'Irak, histoire individuelle, histoire collective. Vous y êtes arrivé. Vous avez trouvé votre...
J'espère. Je sais pas vraiment. En tout cas, j'essaie d'être la plus intègre à moi-même. C'est vrai que c'est un peu un ovni, mon affaire, parce qu'on me dit, mais on n'arrive pas à voir quelles sont tes références théâtrales. Enfin, j'ai essayé de traduire au plus près l'expérience que je voulais transmettre, sachant qu'en fait, moi, mon cheval de bataille, c'était de parler des mécanismes d'assimilation. La pièce est effectivement inspirée de faits autobiographiques, mais c'est pas une autobiographie. Mon idée, c'était pas de parler de ma vie, mais c'était de parler de cet endroit poreux qui est celui de l'assimilation, que j'oppose à celui de l'intégration, c'est-à-dire s'assimiler, c'est-à-dire anéantir une culture pour faire la place à une autre.
D'où le titre « La place ».
Bah peut-être. Place, c'est vrai que en fait place c'est à plein niveau. C'est comment on n'est jamais à la bonne place, comment on se sent toujours de trop, pas au bon moment, pas de la bonne manière. Comment en fait on est écartelé en permanence et on passe son temps à essayer de se contorsionner pour donner l'impression qu'on est à la bonne place en fait. Et oui, effectivement, c'est aussi comment notre culture a une place en nous.
Comment vos parents vous assignent à une place, celle de la douleur?
Ouais, absolument.
Près de la douleur de votre pays.
En fait, en vrai, il y a plein de choses à voir dans ce mot place qui revient d'ailleurs lui-même dans le texte plusieurs fois à plein d'endroits différents, même dans la bouche de l'amoureux d'Yasmine qui lui dit j'ai l'impression que tu me donnes la sensation d'être moi à la bonne place.
Quand ça, c'est magnifique. C'est une scène magnifique.
Merci. Donc, en fait, oui, finalement, on est tous en quête de place. Je crois pas que j'invente quelque chose. Parfois, on a la sensation d'être à la bonne place, parfois pas. C'est tellement, une place, c'est tellement éphémère, en fait. Rarement, on se sent toujours à la bonne place de la bonne façon. Parfois, quand on est à la bonne place, on se sent tout d'un coup épanoui, les pieds dans le sol. On se sent grand et puissant, ça, je crois que ça, c'est un goût de bonne place, quoi. Et en fait, cette histoire, elle est liée à ça. J'ai voulu traduire cette expérience-là de l'assimilation, de la violence symbolique, de comment il y a une constellation de situations, intérieures et extérieures, qui vous donnent le sentiment qu'être étranger, c'est une honte, et comment on grandit avec cette violence-là, et comment on fait par retourner des mécanismes de domination contre nous. On n'a plus besoin de nous rappeler que c'est un problème. On alimente cette oppression tout seul,
en soi.
Je comprends rien à ce que tu dis. Elle est bizarre. Hey, pourquoi t'es bizarre? Tu sais pas parler. Tu sais pas, je comprends rien à ce que tu dis. Elle est bizarre.
Non, tu es pas avec bizarre.
Elle m'a touchée, je vais tomber malade. C'est pas parler.
Tamara Al-Saadi, c'est un autre extrait encore de votre pièce, Place, donc qui est une auto-fiction très inspirée de votre histoire. Comme vous avez été comme ça balancée dans une cour de récréation en maternelle, et c'est un peu le son que vous en avez retenu de cette expérience, c'est ça? Un peu crissant, répétitif, comme des fantômes, moi, je trouve.
Oui, c'est hyper traumatisant. Déjà, aller à l'école, c'est traumatisant, je pense, pour n'importe qui, mais quand on arrive à l'école et qu'en plus, on ne sait pas parler, qu'on ne comprend rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de repères, on n'a personne qui parle la même langue que vous, on est face à un espace hostile de survie qui est celui de la cour de récréation. Enfin, c'est une version non aseptisée de la société, en vrai. C'est que tout d'un coup, c'est la guerre et puis putain, personne ne vous fait croire que il n'y a pas d'espace d'hypocrisie. Hein. Enfin, je veux dire, on vous rentre dedans, c'est...
Direct.
Direct. Enfin, c'est le premier contact avec le racisme, la différence, des profs qui sont pas formés pour gérer un enfant qui parle pas français et qui s'impatiente. Voilà.
La question de la langue, elle est centrale dans votre pièce. Et moi, je me suis demandé si vous aviez commencé à écrire cette pièce parce que vous avez eu un trouble du langage, vous, Tamara Al-Saadi. Un trouble sévère, j'allais dire.
Oui.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
En fait, il y a quelques années, je me réveillais la nuit parce que je me rappelais plus de mots en arabe. Et en fait, j'étais réveillée par cette sensation d'oubli. Puis je pouvais me rendormir que quand je me retrouvais le mot. Et en fait, c'est ça qui m'a fait prendre conscience du fait que j'ai vécu l'assimilation. Et pas l'intégration, c'est que finalement, ma langue maternelle était en train de vraiment s'anéantir. Et puis c'est comme si elle était en train de crier dans mes os, dans mon système nerveux, dans mon inconscient. Récupère-moi, s'il te plaît. Et en fait, tout d'un coup, j'ai décidé de l'écouter. Et puis je me suis rendu compte à quel point je l'avais maltraitée. Je l'avais oppressée et je suis ravie qu'elle n'ait pas voulu complètement s'en aller. Et du coup, c'est via ce rapport à la perte des mots de ma langue maternelle que j'ai décidé d'ouvrir cette histoire. Ouais.
La perte des mots dans votre langue maternelle, mais en même temps, vous n'arriviez plus à lire en français?
Non, ça c'est une fiction, ça c'est pour la pièce, c'est pas réel.
Ah.
C'est une autofiction, Zoé.
Oh, mais moi, je suis bon public.
Non, j'ai voulu traduire justement cette question de la perte, parce que c'est pas reproduit mot pour mot. En créant un espace fantastique de la version française de Yasmine II qui ne sait plus lire en français. Ça l'a fait disjoncter, quoi.
Oui, d'accord, j'ai compris.
C'est le lien entre la langue maternelle et la langue de la société d'accueil.
En tout cas, ce qui vous a construit pour apprendre la langue française, c'est l'école, bien sûr, mais pas seulement, c'est aussi le Club Dorothée.
J'ai une grande surprise pour vous.
C'est quoi?
Bah, c'est une surprise, je vais pas vous dire.
Ah bon, d'accord.
Ah, une surprise, c'est chouette, moi j'adore les surprises.
Aussi.
Un dessin inédit en France. Et absolument, pour la première fois, grâce au Club Dorothée, vous allez pouvoir un super dessin animé que personnellement j'adore. Et toc, je l'ai dit.
Oui, encore, c'est quoi?
Dragon Ball. C'est adorable. Oh, oui. J'espère que vous allez aimer.
Dragon Ball, la quête finale. Des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball, pour un idéal. Combat glacial du bien contre le mal.
C'est qui le Super Saiyan?
C'est toi.
Oui, Yasmine, moi je suis un Super Saiyan. Moi je suis Son Goku. Je suis le plus grand des super guerriers. Ah!
Caberta Katirani, Son Goku.
Mais qui d'autre? Toi, Yasmine, toi.
Mais oui.
Eh, n'oublie jamais ça. T'es ma petite sœur. Donc t'es un Super Saiyan, hein? Faut que tu te souviennes de ça quand les autres t'embêtent, t'as compris?
Oui.
T'as compris?
Mon Tamara Al-Saadi, pour ceux qui n'ont pas regardé Son Goku, il faut donner une explication. D'abord, on a retrouvé la première fois que le Club Dorothée diffuse Dragon Ball,
ouais,
qui est un dessin animé que vous avez beaucoup regardé, auquel vous faites référence à plusieurs reprises dans votre pièce. Et votre frère, enfin le frère du personnage principal, Yasmine, s'amuse avec ça et vous dit vous êtes plus forte que tout et même plus forte que Saddam Hussein.
Oui, en fait, ça parle de plein de choses, cette référence à Dragon Ball Z. Moi, la culture populaire, elle est très présente avec moi. Quand j'étais petite, j'étais un enfant très solitaire et j'avais beaucoup de personnages imaginaires avec qui je parlais, dont Son Goku dans ma tête. Tous les personnages de dessins animés que je voyais étaient un peu mes compagnons de route quand j'étais toute seule dans ma cour de récréation, quoi. Et puis mon frère était pour moi un modèle, j'avais très très envie de lui ressembler, je le trouvais trop classe. Et en fait, je voulais toujours faire ce qu'il faisait. Et puis en fait, c'est lui qui me montrait quelles étaient les bonnes références à suivre. Donc d'un côté, à un moment donné, bah, il y a eu Rambo, puis il y a eu Dragon Ball Z, puis bon, après, il y a eu plein d'autres choses. Et du coup, bah, j'ai voulu utiliser le dessin animé Dragon Ball Z comme une espèce de métaphore filée qui accompagne Yasmine jusqu'à l'âge adulte, quoi.
Tu fais n'importe quoi ! Ça t'amuse de me foutre la honte ?
Mais ça voit qui ?
Si ! Si, t'as fait ! T'es là ! T'existes ! Tout le temps, t'es là, il voit que toi !
Je n'étais pas un bitch ! Il a marre la vie de Chalman, je n'étais pas un anti !
Non, t'es pas moi ! T'es qu'un empêchement ! T'es empêchante, tu comprends ça ? T'es qu'un obstacle ambulant ! T'es nauséabonde, tu fais chier tout le monde. Personne te voit, mais tout le monde t'évite. Je te déteste. Arrête de me parler en arabe. Arrête. Je comprends rien et je veux plus comprendre. Moi, je voudrais que tu sois jamais venu au monde. Que tu sois jamais né à Bagdad. Arrête d'être fière. Tu vois pas que ça gêne tout le monde. Le silence qu'ils font tous dès que je dis Bagdad. On dirait que je suis atteinte d'une maladie incurable. C'est insupportable, je le déteste ce mot. Je le déteste.
Tamara Al-Saadi, dans votre pièce, le personnage principal, Yasmine, est dédoublé. Oui. Il y a une Yasmine 1, une Yasmine 2, il y a comme s'il y avait une Yasmine française et une Yasmine irakienne.
Pas comme, c'est ça. C'est en ça. Fait, je me suis dit que la façon la plus directe de parler cette question d'assimilation, c'est de raconter le moment où en fait la dualité se crée, puis l'oppression. C'est-à-dire qu'au début de la pièce, Yasmine 1, c'est la version originelle de Yasmine, sa version arabe. Et puis à un moment donné, elle rentre en contact avec l'extérieur, avec l'école, apparaît sa version française qui lui permet de survivre et qui est son principal allié, jusqu'au moment où cette nouvelle version d'elle-même décide d'anéantir la version première, parce que tout d'un coup, sa version originelle l'encombre. Elle voit comment, en fait, le racisme ordinaire, les confrontations à la préfecture de police, enfin, plein de situations, elle a l'impression que toute la société lui en veut de son arabité, et donc décide d'anéantir Yasmine 1. C'est l'extrait que vous venez de passer.
Et ça vous ressemble ?
Oui. Oui, oui, ça me ressemble, parce que, en fait, cette graine de la honte, on la sème très vite.
Mais honte de quoi ?
Du fait d'être arabe. C'est problématique, c'est-à-dire qu'on est dans une société où le fait d'être arabe est problématique. On n'est pas forcément musulman quand on est arabe, mais ça reste très... ça imprègne la culture arabe, la religion musulmane. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On regarde même juste de la manifestation contre l'islamophobie, et j'entends vraiment des discours politiques, mais navrants sur le non-soutien à ce mouvement. Enfin, je veux dire, le problème de ce racisme-là est présent à tous les niveaux de la société. Moi, je suis arrivée dans des écoles privées, des collèges en plein milieu du centre parisien, et j'ai été confrontée à un racisme d'élite extrêmement fort de la bourgeoisie française. On m'a rappelé très vite que c'était très problématique, qu'il fallait que j'oublie ma langue maternelle très vite. Et dès que je faisais une erreur de compréhension culturelle, j'ai été sanctionnée. Donc bah, quand on est petit, on comprend que c'est un problème et on intègre ça comme quelque chose qu'il faut détruire, en fait.
Vous dérangez, quoi.
Ouais.
La partie irakienne de vous dérange.
Ouais.
Encore aujourd'hui ?
Bah, aujourd'hui, heureusement, je l'ai récupéré. Enfin, pas totalement, j'y arriverai jamais. J'ai réussi. Et maintenant, je suis une Française qui parle irakien et puis une Irakienne qui parle français. Je suis très fière d'être française. J'aurais voulu rencontrer la France avec plus de douceur. Mais bon, maintenant, je suis un grand produit de l'assimilation. On ne peut pas faire plus parisienne que moi, vous devez le constater, là. J'ai vraiment réussi à faire taire quelque chose, et maintenant je suis très triste de moins savoir parler arabe, de pas savoir l'écrire, de pas connaître grand chose sur l'histoire de mon pays d'origine. Et puis le fait d'être lié à un espace en guerre fait qu'effectivement il y a une fascination autour de soi. À partir du moment où je dis Bagdad, j'ai balancé une bombe dans la pièce, en fait. Ça crée une fascination et ça déplace les gens souvent. Ils se permettent de poser des questions qu'ils poseraient pas à quelqu'un qui n'est ailleurs, quoi. Ça crée une impudeur autorisée.
Une impudeur autorisée. Est-ce que c'est pour ça qu'à la fin de votre pièce, est-ce que c'est pour vous réconcilier avec ce que vous avez perdu que vous dites qu'il est question de ce poème de Mahmoud Darwish à la fin de votre pièce ? Ça parle de la patrie.
Oui, ça s'appelle « Le soldat qui rêvait de lys blanc » de Mahmoud Darwish. Et en fait, c'est un dialogue qu'il a retranscrit avec Shlomo Sand lui-même. Et je le fais dire par la version française de Yasmine, qui le dit en arabe, pour faire entendre cette Française maintenant qui parle arabe et qui essaie de se réconcilier avec ses mots originels.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire en arabe la fin de ce poème, qui est magnifique et qui dit en français « La patrie, c'est boire le café de sa mère ». Et rentrer à la tombée du jour, rassurée.
Oui, vous voulez que... Je ne peux pas vous le dire en arabe. Vous voulez que je vous, que je vous lise l'extrait en français ?
Ouais.
Alors,
vous ne pouvez pas me le dire en arabe ?
Non, je ne peux pas vous le dire en arabe.
Pourquoi ?
Bah, c'est des espaces... Comme je vous le disais, j'ai quelque chose avec ma langue d'origine qui est difficile. Et je vais trop paniquer si je vous parle en arabe. Je vais avoir des sueurs froides. Je ne vais pas y arriver. Vous voulez que je vous le dise en français quand même ?
Je veux bien.
Il me fit ses adieux. Il était à la recherche de lys blanc, d'un oiseau accueillant le matin sur un rameau d'olivier. Il percevait les choses telles qu'il les ressentait et les sentait. La patrie, il me l'a dit, c'est boire le café de sa mère et rentrer à la tombée du jour rassuré.
Merci.
Merci à vous.
understand. Oh,
Zoé Varier sur France Inter.
Tamara Al-Saadi, c'est bientôt la fin de cette émission et avant de se quitter, je vais reprendre quelques événements qui se sont passés cette année 2003. Alors quelques jours après la capture de Saddam Hussein, même si ça n'a rien à voir, mais quand même, le 17 décembre 2003, Jacques Chirac faisait un discours sur le respect du principe de la laïcité en France suite à l'affaire du voile qui avait agité notre pays pendant des mois.
J'estime que le port de tenue ou de signe qui manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Les signes discrets, par exemple une croix, une étoile de David ou une main de Fatima, resteront naturellement possibles. En revanche, le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de manifestement de dimension excessive n'ont pas leur place dans les enceintes des écoles publiques. Tous les enfants de France, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, sont les filles et les fils de la République. Ils doivent être reconnus comme tels, dans le droit, mais surtout dans les faits.
Tamara, je vous écoute. Je pense que vous avez des choses... Ouais, non.
Si, j'ai énormément de choses à dire. Mais quand je parle d'assimilation, il s'avère que l'assimilation, c'est un système... C'est des mécanismes de lissage, d'homogénéisation. Et en fait, c'est pour ça que je l'oppose à l'intégration. L'intégration, c'est la reconnaissance de la différence. Et ça, pour moi, c'est la laïcité. C'est la reconnaissance de la différence de l'autre, de la croyance de l'autre, tant qu'il ne nous l'impose pas. Mais tant que si c'est sur son corps, sa vie, son histoire, qui se raconte lui, qui veut se raconter à la société comme ça, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Enfin, vraiment. Et je veux dire, là, c'était le début du drame. Cette prise de décision, pour moi, elle a été terrible. Elle a été terrible parce qu'elle venait vraiment asseoir une opération d'homogénéisation et d'invisibilisation de la France. De ce qu'est la France dans sa diversité, dans toutes ses cultures, dans toutes ses langues, dans tous ses rêves, dans toutes ses histoires. Mais quel visage on veut donner de la France à l'extérieur? Enfin, on veut faire des clones, en fait, de notre jeunesse? Je comprends pas. Et de toute façon, enfin, cette histoire du voile, à partir du moment où on a envie d'attirer l'attention sur une catégorie de la population, on s'attaque automatiquement au corps des femmes et à ce bout de tissu, mais qui emmerde personne. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. Et mettre ça dans la tête de jeunes filles, on leur dit ce que vous êtes, ce en quoi vous croyez, et contre républicain, contre la société qui vous a vu naître, c'est le début de ce dont je vous parle, de cette germe de la honte, elle part de lois comme celle-ci.
Et de la fracture.
Et de la fracture, ouais.
Qui va avoir des conséquences.
Qui va avoir des conséquences qu'on connaît maintenant aujourd'hui désastreuses par rapport à des revendications identitaires, des crispations. Où des gens, des essences, des jeunesses se sentent attaquées et commencent à tout mélanger, oui.
Un peu plus léger, l'année 2003, c'est l'année de Rabelais, on célèbre l'anniversaire de sa mort. En 2003, Indochine est le premier groupe français à se produire à Bercy. Johnny lui fête ses 60 ans au Parc des Princes. Et Beyoncé caracole en tête du top 50. « Ça vous fait rire, Tamara Al-Sahadi, que je vous mette Beyoncé, hein?
Ouais, je me dis, elle est forte, hein, elle vient de loin quand même, Beyoncé. Elle est dans nos vies depuis longtemps, quoi.
Elle est dans votre vie aussi.
Ah bah ouais, bien normal, quoi, comme beaucoup de gens, je pense.
Elle aurait pu être dans la pièce, elle aussi.
C'est vrai. Elle aurait pu, j'ai fait le choix de Maria Carré, mais ça aurait pu être Beyoncé,
ouais. Ouais. On aurait pu aussi mettre Maria Carré, on aurait dû y réfléchir plus longtemps. J'ai une dernière question avant de finir cette émission. Je sais, Tamara Al-Sahadi, que vous êtes retournée en Irak il n'y a pas très longtemps. En 2016, c'est ça ?
Oui. Ouais, je suis rentrée en 2016. J'avais un besoin de voir ma maison.
Elle était là ?
Oui, elle était là. Elle n'était pas détruite.
Le portail vert ?
Le portail, ouais, le portail sur lequel ma grand-mère... il y avait le pilier qui tenait le portail. Elle m'asseyait là pour que j'attende mon grand frère et ma grande sœur qui revenaient de l'école. J'ai reconnu la maison parce que j'ai reconnu le portail. J'ai pas pu frapper parce que c'était trop dangereux, mais les voisins m'ont reconnue. Et du coup, j'ai pu discuter avec les voisins.
En arabe.
Oui. Là, pour le coup, en Irak, je parlais qu'en irakien. Et puis, c'est marrant parce que les gens me disaient, mais pourquoi vous parlez arabe avec un accent irakien? Plus, pourquoi vous parlez irakien avec un accent de Bagdad? Et donc, j'ai réalisé que je parlais irakien avec un accent de Bagdad, ce qui m'a beaucoup soulagée. Mais les gens ne comprenaient pas pourquoi une étrangère parlait cet arabe-là, ce dialecte-là. Et c'est vraiment dans les yeux des Bagdadis que j'ai compris que j'étais française. J'ai pu rentrer de Bagdad et dire que j'étais la française pour la première fois.
En 2016.
En 2016. Avant, je ne savais pas le dire.
Et est-ce que c'est vrai que vous marchez autrement depuis que vous êtes allée à Bagdad, que vos amis ont remarqué que votre démarche avait changé?
Oui, j'ai mon amie Camille, quand je suis sortie de l'avion, je suis rentrée, puis elle m'a dit, il y a quelque chose dans ta démarche qui a changé. Mais un truc dans mon corps qui a changé, j'ai beaucoup de troubles du sommeil. Et Bagdad est l'une des villes les plus dangereuses du monde, et j'ai dormi comme un bébé quand j'étais là-bas. Bon, ça raconte quelque chose, quoi. Oui, ça change quelque chose dans le corps, fondamentalement, de retrouver sa maison.
Merci Tamara Al-Sahadi.
Merci à vous.
Merci d'avoir participé à cette émission et merci aussi à Laure Grand Besançon. C'est elle qui nous a donné l'idée de vous inviter. Votre pièce Place se joue à Paris du 23 au 28 novembre au 104, c'est ça ?
C'est ça.
Et ensuite vous faites une énorme tournée en France jusqu'en mai ?
Oui.
Et vous allez un peu partout, de Toulon à Armentières. Vous allez sillonner la France, hein, c'est oui. Ça ? Nancy, Saint-Étienne, Reims.
Oui, on a cette chance-là, ouais, de traverser la France avec ce spectacle.
Alors pour en savoir plus et pour trouver toutes les dates de la tournée sur le site de l'émission sur franceinter.fr. C'est fini Tamara.
Quel dommage.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka, à la technique aujourd'hui c'était Tristan Gratalon. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Bonne fin de week-end. Tout de suite après le flash, vous retrouverez Vincent Josse et son grand atelier.